1984. Troisième partie. Chapitre 1. Winston ne savait pas où il se trouvait. Il était probablement dans le ministère de l'amour, mais il n'y avait aucun moyen d'en être certain. Il était dans une cellule sans fenêtre et à haut plafond, avec des murs de porcelaine blanche étincelante. Des lampes dissimulées l'inondaient de lumière froide, et Winston entendait le bourdonnement lent et continu qui, pensa-t-il, avait probablement un rapport avec la diffusion de l'air. Un banc, ou une étagère juste assez large pour s'asseoir, faisait le tour du mur, interrompu seulement par la porte et, à l'exact opposé de la porte, une cuvette de toilette sans siège en bois. Il y avait 4 télécrans, un dans chaque mur. Il avait une douleur sourde au ventre. Elle ne l'avait pas quitté depuis qu'on l'avait jeté dans un fourgon fermé et emporté. Mais il avait aussi faim, une faim qui le rongeait, une faim malsaine. Cela faisait peut-être 24 heures qu'il n'avait pas mangé, peut-être 36. Il ne savait toujours pas, et ne le saurait probablement jamais, si c'était le matin ou le soir qu'on l'avait arrêté. Depuis son arrestation, il n'avait pas été nourri. Il s'est assis, aussi immobile que possible sur le banc étroit, avec ses mains croisées sur les genoux. Il avait déjà appris à rester assis sans bouger. Si vous faisiez des mouvements inattendus, il vous criait dessus depuis le télécran. Mais la faim s'intensifiait. Ce qu'il désirait, par-dessus tout, c'était un morceau de pain. Il avait dans l'idée qu'il y avait quelques miettes de pain dans la poche de sa salopette. Il était même possible. Il y pensait parce que de temps en temps quelque chose semblait lui chatouiller la jambe, qu'il y ait un morceau de croûte assez important à cet endroit. Finalement, la tentation de le savoir a vaincu sa peur. Il glissa une main dans sa poche. « Smith !» cria une voix sur l'écran. « 6079 Smith W. Dans les cellules, les mains doivent rester hors des poches. » Il s'assit de nouveau, les mains croisées sur les genoux. Avant d'être amené ici, il avait été emmené dans un autre lieu qui devait être une prison ordinaire, ou un lieu de détention temporaire utilisé par les patrouilles. Il ne savait pas depuis combien de temps il était là. Quelques heures, en tout cas. Sans horloge. Et sans lumière du jour, il était difficile d'évaluer l'heure. C'était un endroit bruyant et malodorant. Il l'avait mis dans une cellule semblable à celle où il se trouvait maintenant, mais sale et toujours pleine de 10 ou 15 personnes. La majorité d'entre eux étaient des criminels de droit commun, mais il y avait quelques prisonniers politiques parmi eux. Il s'était assis en silence contre le mur, bousculé par des corps sales, trop préoccupé par la peur et la douleur au ventre pour s'intéresser à ce qui l'entourait, mais remarquant toujours l'étonnante différence de comportement entre le maintien des prisonniers du parti et celui des autres. Les prisonniers du parti étaient toujours silencieux et terrifiés. Mais les criminels ordinaires semblaient ne craindre personne. Ils insultaient les gardes, se défendaient avec acharnement lorsque leurs biens étaient confisqués. Ils écrivaient des mots obscènes sur le sol, mangeaient de la nourriture de contrebande qu'ils sortaient de mystérieuses cachettes dans leurs vêtements, et criaient même sur le télécran quand ils essayaient de rétablir l'ordre. D'autre part, certains d'entre eux semblaient être en bons termes avec les gardes, les appelait par des surnoms et essayait de faire passer des cigarettes par le trou d'espion dans la porte. Les gardiens ont également traité les criminels de droit commun avec une certaine tolérance, même quand ils devaient les traiter durement. On parlait beaucoup des camps de travaux forcés où de nombreux prisonniers s'attendaient à être envoyés. Dans les camps, on pensait que tout allait bien tant que vous aviez de bons contacts et que vous connaissiez les ficelles du métier. Il y avait de la corruption, du favoritisme et du racket en tout genre. Il y avait de l'homosexualité, et de la prostitution. Il y avait même de l'alcool illicite distillé à partir de pommes de terre. Les postes de confiance étaient donnés uniquement aux criminels de droit commun, en particulier les gangsters et les meurtriers, qui formaient une sorte d'aristocratie. Toute la sale besogne était faite par les criminels politiques. Il y avait un va-et-vient constant de prisonniers de toutes catégories. Trafiquants de drogue, voleurs, bandits, vendeurs du marché noir, ivrognes, prostituées. Certains ivrognes étaient si violents que les autres prisonniers ont dû s'unir pour les neutraliser. Une femme énorme, épave d'environ 60 ans, aux grandes mamelles ballottantes, aux épaisses boucles de cheveux blancs défaits, fut apportée, hurlante et frappant du pied par 4 gardes qui la tenaient chacun par un bout. Ils lui arrachèrent les bottes avec lesquelles elle avait essayé de leur donner des coups de pied, et la jetèrent à terre, sur les genoux de Winston, lui cassant presque les os des cuisses. La femme se hissa sur ses pieds et les poursuivit en criant « Sale bâtard !» Puis remarquant qu'elle était assise sur quelque chose d'irrégulier, elle glissa des genoux de Winston sur le banc. « Je te demande pardon, chérie, » dit-elle. « Je voulais pas m'asseoir sur toi. C'est ces animaux qui m'ont mise là. Ils savent pas traiter les dames, pas ?» Elle s'arrêta, se tapota la poitrine et rota. « Oh, pardon, » dit-elle. « Je suis pas tout à fait moi-même. » Elle se pencha en avant et vomit abondamment sur le sol. « Ça va mieux, » dit-elle en se rejetant en arrière les yeux fermés. « Faut jamais garder ça, je te dis. Faut le sortir pendant que c'est comme frais sur l'estomac. » Elle reprenait vie, se tourna pour jeter un nouveau regard sur Winston qui semblait immédiatement lui plaire. Elle entoura l'épaule de Winston de son bras énorme et l'attira à elle, lui soufflant de la bière et du vomi au visage. Et elle lui dit « Comment t'appelles-tu, chérie ?»« Smith, » dit Winston. « Smith ?» dit la femme. « C'est drôle. Je m'appelle Smith aussi. » Et elle ajouta avec émotion « Je pourrais être ta mère. » « Elle pourrait, » pensait Winston, « être sa mère. » Elle avait le bon âge et le bon physique. Et il était probable que les gens changeaient après 20 ans de camp de travail forcé. Personne d'autre ne lui avait parlé. Les criminels de droit commun ignoraient de façon surprenante les prisonniers du parti. Les « polits », les appelait-il, avec une sorte de mépris désintéressé. Les prisonniers du parti semblaient terrifiés à l'idée de parler à qui que ce soit, et surtout de se parler entre eux. Seulement une fois, lorsque 2 membres du parti, 2 femmes, ont été pressées l'une contre l'autre sur le banc, il surprit dans le vacarme des voix quelques mots rapidement chuchotés, et en particulier une allusion à quelque chose appelé « salle 101 » qu'il ne comprit pas. Il y avait peut-être 2 ou 3 heures qu'on l'avait apporté là. La douleur sourde dans son ventre n'a jamais disparu, mais parfois elle s'est atténuée. Et parfois elle a empiré. Et le champ de sa pensée s'étendait ou se rétrécissait suivant le même rythme. Quand elle empirait, il ne pensait plus qu'à la douleur elle-même et à son désir de nourriture. Quand elle s'atténuait, la panique s'empara de lui. Il y avait des moments où il imaginait ce qui devait lui arriver avec une telle intensité que son cœur battait au galop et que sa respiration s'arrêtait. Il sentit le fracas des matraques sur ses coudes et celui des bottes en fer sur ses tibias. Il s'est vu, rampant sur le sol, criant de pitié à travers des dents cassées. Il ne pensait guère à Julia. Il ne pouvait pas fixer son esprit sur elle. Il l'aimait et ne voulait pas la trahir. Mais ce n'était qu'un fait puisqu'il connaissait les règles de l'arithmétique. Il ne ressentait aucun amour pour elle. Et il ne se demandait même pas ce qui lui arrivait. Il pensait souvent à O'Brien, avec un espoir vacillant. O'Brien pourrait savoir qu'il avait été arrêté. La confrérie, avait-il dit, n'a jamais essayé de sauver ses membres. Mais il y avait la lame de rasoir. Ils envoyaient la lame de rasoir, s'ils le pouvaient. Il y aurait peut-être 5 secondes avant que le garde ne puisse se précipiter dans la cellule. La lame lui mordrait la chair avec une froideur brûlante, et les doigts mêmes qui la tenaient seraient coupés jusqu'à l'os. Tout revenait à son corps malade, qui tremblait à la moindre douleur. Il n'était pas certain qu'il utiliserait la lame de rasoir même s'il en avait l'occasion. Il était plus naturel de vivre chaque moment en acceptant 10 minutes supplémentaires d'existence, même avec la certitude que la torture était au bout. Parfois, il essayait de calculer le nombre de carreaux de porcelaine sur les murs de la cellule. Cela aurait dû être facile, mais il perdait toujours le compte à un moment ou à un autre. Le plus souvent, il se demandait où il était et à quelle heure de la journée il était. Un instant, il eut la certitude qu'il faisait jour dehors, et à l'instant suivant, il était tout aussi certain que c'était l'obscurité totale. Dans cet endroit, il savait instinctivement que les lumières ne seraient jamais éteintes. C'était l'endroit sans ténèbres. Il voyait maintenant pourquoi O'Brien avait semblé reconnaître l'allusion. Dans le ministère de l'amour, il n'y avait pas de fenêtre. Sa cellule pourrait être au cœur du bâtiment, ou contre son mur extérieur. Il pourrait être de 10 étages sous le sol, ou de 30 étages au-dessus. Il se déplaçait mentalement d'un endroit à l'autre et essayait de déterminer par la sensation de son corps s'il était perché haut dans les airs ou enfoui profondément sous terre. Il y eut un bruit de bottes dehors. L'acier de la porte s'ouvrit en claquant. Un jeune officier luisant de cuir verni, nette silhouette en uniforme noir dans le visage pâle, aux traits précis, était comme un masque de cire, entra rapidement. Il fit signe aux gardes qui se trouvaient dehors d'amener le prisonnier qu'ils escortaient. Le poète Ampleforth fut introduit dans la cellule. La porte se referma en claquant. Ampleforth fit un ou deux mouvements incertains d'un côté à l'autre, comme s'il avait l'idée qu'il y avait une autre porte à franchir. Puis il commença à arpenter la cellule. Il n'avait pas encore remarqué la présence de Winston. Ses yeux troublés fixaient le mur à environ 1 mètre au-dessus du niveau de la tête de Winston. Il était sans souliers, grand, les orteils sales sortaient des trous de ses chaussettes. Il y avait également plusieurs jours qu'il ne s'était pas rasé. Une barbe naissante couvrait son visage jusqu'aux pommettes, lui donnant un air de ruffian qui ne collait pas avec sa frêle carrure et ses mouvements nerveux. Winston sortit un peu de sa léthargie. Il devait parler à Ampleforth et risquer les cris du télécran. Il était même concevable qu'Ampleforth soit le porteur de la lame de rasoir. « Ampleforth, » dit-il. Il n'y eut pas de cri du télécran. Ampleforth s'immobilisa, légèrement effrayé. Ses yeux se posèrent lentement sur Winston. Il dit « Ah, Smith, toi aussi. Pourquoi êtes-vous là ? Pour vous dire la vérité, il s'assit maladroitement sur le banc en face de Winston. « Il n'y a qu'un seul crime, n'est-ce pas ? » dit-il. « Et vous l'avez commis ? » ?»« Apparemment, oui. » Il mit la main sur son front et appuya sur ses tempes pendant un moment, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. « Ce sont des choses qui arrivent, » commença-t-il vaguement. « J'ai pu me souvenir d'un cas possible. C'était sans doute une indiscrétion. » Nous étions en train de produire une édition de poèmes de Kipling. J'ai laissé le mot « Dieu » à la fin d'un vers. Je n'ai pas pu m'en empêcher, a-t-il ajouté. Il leva le visage pour regarder Winston. C'était impossible de changer le vers. La rime était « yeu ». Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a que 12 rimes en « yeu » dans toute la langue ? Pendant des jours, je me suis creusé la tête. Il n'y avait pas d'autre rime. L'expression de son visage changea. L'agacement s'était évanoui et pendant un moment, il eut l'air presque content. Une sorte de chaleur intellectuelle, la joie du pédant qui a découvert un fait inutile, brilla à travers sa barbe sale et emmêlée. « Vous est-il jamais venu à l'esprit, dit-il, que toute l'histoire de la poésie anglaise a été déterminée par le fait que la langue anglaise manque de rimes ?» Non, cette pensée particulière n'était jamais venue à l'esprit de Winston. Dans ces circonstances, il ne lui est pas non plus apparu comme très importante ou intéressante. « Savez-vous à quelle heure de la journée nous sommes ? » dit-il. Ampleforth eut de nouveau l'air surpris. « J'y avais à peine pensé. Ils m'ont arrêté, cela pourrait être il y a 2 jours, peut-être 3. » Ses yeux firent le tour des murs, comme s'il s'attendait à trouver une fenêtre quelque part. Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit dans cet endroit. Je ne vois pas comment on peut calculer le temps. Ils parlèrent à bâtons rompus pendant quelques minutes. Puis, sans raison apparente, un cri du télécran leur ordonna de rester silencieux. Winston s'assit tranquillement, les mains croisées. Ampleforth, trop grand pour s'asseoir confortablement sur le banc étroit, agité, se tournant d'un côté à l'autre, croisant ses mains autour d'un genou, puis de l'autre. Le télécran lui aboya de rester immobile. Le temps passa. 20 minutes. 1 heure. C'était difficile à juger. Une fois de plus, il y eut un bruit de bottes à l'extérieur. Les entrailles de Winston se sont contractées. Bientôt. Très bientôt. Peut-être dans 5 minutes. Peut-être maintenant. Le bruit des bottes signifierait que son propre tour était venu. La porte s'est ouverte. Le jeune officier au visage froid fit un pas dans la cellule. D'un bref mouvement de la main, il indiqua Ampleforth. « Chambre 101 !» dit-il. Ampleforth sortit maladroitement entre les gardes, son visage vaguement perturbé, mais incompréhensible. Ce qui semblait être un long moment passa. La douleur au ventre de Winston s'était ravivée. Son esprit revenait toujours au même point comme une balle qui tombe encore et encore dans la même série d'espace-temps. Il n'avait que 6 pensées. La douleur dans son ventre, un morceau de pain, le sang et les cris. O'Brien, Julia, la lame de rasoir. Il y eut un autre spasme dans ses entrailles. Les lourdes bottes s'approchaient. Alors que la porte s'ouvrait, l'appel d'air qu'elle créa apporta une puissante odeur de sueur froide. Parsons est entré dans la cellule. Il portait un short kaki et une chemise de sport. Cette fois-ci, Winston fut effrayé et s'abandonna. « Tu es là ? » dit-il. Parsons donna à Winston un regard dans lequel il n'y avait ni intérêt ni surprise, mais seulement de la misère. Il se mit à arpenter la pièce d'une démarche saccadée, manifestement incapable de rester immobile. Chaque fois qu'il redressait ses genoux boudinés, il était évident qu'il tremblait. Ses yeux étaient grands ouverts, le regard fixe, comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de regarder quelque chose au loin. « Qu'est-ce que tu fais ?» dit Winston. « Crime de la pensée !» dit Parsons presque en pleurant. Le ton de sa voix impliquait d'emblée un aveu complet de sa culpabilité et une sorte d'horreur incrédule qu'un tel mot pourrait s'appliquer à lui-même. Il s'arrêta en face de Winston et lui lança avec ferveur. « Tu ne penses pas qu'ils vont me fusiller, n'est-ce pas, mon vieux ?» Ils ne vous tirent pas dessus si vous n'avez pas réellement fait quelque chose. Seulement des idées qu'on ne peut empêcher de venir. Je sais qu'ils donnent un bon avertissement. Oh, j'ai confiance en eux pour cela. Mais ils tiendront compte de mes services, n'est-ce pas? Tu sais quel genre de type j'étais. Pas un mauvais gars, à ma façon. Pas intelligent, bien sûr, mais vif. J'ai essayé de faire de mon mieux pour le parti, n'est-ce pas? Je m'en sortirai, avec 5 ans, tu ne penses pas? Ou même 10 ans. Un type comme moi pourrait se rendre utile dans un camp de travail. Il ne me tirerait pas dessus pour avoir déraillé une seule fois.
Es-tu coupable? Dit Winston.
Bien sûr que je suis coupable,
s'écria Parsons avec un regard servile au télécran.
Tu ne penses pas que le parti arrêterait un innocent, n'est-ce pas? Son visage de grenouille se calma et prit même une expression un peu moralisatrice. Le crime d'opinion est une chose terrible, vieux,
dit-il sentencieusement.
C'est insidieux. Il peut s'emparer de vous sans même que vous le sachiez. Sais-tu comment il s'est emparé de moi? Dans mon sommeil, oui. C'est un fait. J'étais là, à travailler, à essayer de faire mon boulot sans savoir que j'avais de mauvaises choses en tête. Et puis j'ai commencé à parler dans mon sommeil. Tu sais ce qu'ils m'ont entendu dire?
Il baissa la voix, comme quelqu'un qui est obligé pour des raisons médicales de proférer une obscénité.
Abba, Big Brother. Oui, j'ai dit ça, je l'ai dit. Et encore, il semble, entre toi et moi, mon vieux, je suis content qu'ils m'aient eu avant que ça n'aille plus loin. Sais-tu ce que je leur dirai lorsque je me présenterai devant le tribunal? Merci. Je vais leur dire merci de m'avoir sauvé avant qu'il ne soit trop tard.
Qui t'a dénoncé? Dit Winston.
C'est ma petite fille, dit Parsons avec une sorte de fierté mal placée. Elle écoutait par le trou de la serrure. Elle a entendu ce que je disais, et dès le lendemain, elle filait chez les gardes. Plutôt malin pour un enfant de 7 ans, non? Je ne lui en garde aucune rancune. En fait, je suis fier d'elle. Cela montre en tout cas que je l'ai élevée dans les bons principes. Il fit encore quelques mouvements saccadés de long en large, à plusieurs reprises, jetant un regard attentif sur la cuvette des toilettes. Puis soudain, il retira son short. « Excuse-moi, mon vieux, » dit-il, « je ne peux pas m'en empêcher. C'est l'attente. » Il plongea son grand postérieur dans la cuvette des toilettes. Winston se couvrit le visage avec ses mains. « Smith !» cria la voix du télécran. « 6079 Smith W. Découvre ton visage. Pas de visage couvert dans les cellules. » Winston découvrit son visage. Parsons utilisa les toilettes, bruyamment et abondamment. Il s'est ensuite avéré que la bonde était défectueuse et la cellule pua abominablement pendant les heures qui suivirent. Parsons fut emmené. D'autres prisonniers allaient et venaient mystérieusement. L'une d'elles, une femme, a été consignée dans la salle 101, et Winston remarqua qu'elle semblait se ratatiner et changer de couleur lorsqu'elle entendit ces mots. Il vint un moment où, s'il avait été amené le matin, ce devait être l'après-midi. Mais s'il avait été amené l'après-midi, ce devait être minuit. Il y avait 6 prisonniers dans la cellule, hommes et femmes. Tous étaient assis très calmement. En face de Winston, il y avait un homme assis avec un visage sans menton et sans dents, exactement comme celui d'un gros rongeur inoffensif. Ses joues grasses et tachetées étaient tellement gonflées qu'il était difficile de ne pas croire qu'il n'y avait pas caché des réserves de nourriture. Ses pâles yeux gris erraient timidement d'un visage à l'autre et se détournaient rapidement quand il rencontrait un regard. La porte s'ouvrit. Et un autre prisonnier fut amené dont l'apparition donna des frissons à Winston. C'était un homme banal, à l'air méchant, qui aurait pu être un ingénieur ou un technicien quelconque. Mais ce qui était surprenant, c'était l'émaciation de son visage. Il était comme un crâne. En raison de sa minceur, la bouche et les yeux semblaient disproportionnés,
et les yeux semblaient remplis avec une haine meurtrière et implacable envers quelqu'un ou quelque chose. L'homme s'assit sur le banc à une petite distance de Winston. Winston ne le regarda plus, mais le visage tourmenté, semblable à un crâne, était aussi vif dans son esprit que s'il avait été sous ses yeux. Soudain, il comprit ce qui se passait. L'homme était en train de mourir de faim. La même pensée sembla frapper en même temps tout le monde dans la cellule. Tout autour de la pièce, il y eut un faible mouvement sur le banc. Les yeux de l'homme sans menton ne cessaient de se diriger vers l'homme à la tête de mort et de se détourner d'un air coupable, puis, cédant à une irrésistible attraction, de revenir à l'homme. Il se mit alors à remuer sur son siège. Il se leva enfin, se dandinant maladroitement à travers la cellule, fouillait dans la poche de sa salopette, et d'un air décontenancé, tendit un morceau de pain à l'homme à la tête de mort. Un grondement furieux et assourdissant s'éleva du télécran. L'homme sans menton sauta et revint sur ses pas. L'homme au visage squelettique avait rapidement mis ses mains derrière son dos pour montrer au monde entier qu'il refusait le cadeau. « Bunstead !» rugit la voix. « 2713, Bunstead G !» Laisse tomber ce morceau de pain. » L'homme sans menton fit tomber le morceau de pain sur le sol. « Restez où vous êtes, » dit la voix. « Faites face à la porte. Ne faites aucun mouvement. » L'homme sans menton obéit. Ses grosses joues gonflées tremblaient de façon incontrôlable. La porte s'ouvrit en claquant. Le jeune officier entra et se plaça de côté. Derrière lui, émergea un garde court et trapu, aux bras et aux épaules énormes. Il se mit en face de l'homme sans menton, puis, au signal de l'officier, il lui asséna un coup terrible, accompagné de tout le poids de son corps, en plein dans la bouche de l'homme sans menton. La violence du coup sembla le faire décoller du sol et l'envoya à travers la cellule pour retomber contre le socle du siège des toilettes. Pendant un instant, il resta allongé comme stupéfait avec du sang noir suintant de sa bouche et de son nez. Il émit un très faible gémissement ou des grincements qui semblaient inconscients. Puis il se retourna et se releva de façon instable sur les mains et les genoux. Au milieu d'un flot de sang et de salive, les deux moitiés d'un dentier tombèrent de sa bouche. Les prisonniers étaient assis très calmement, les mains croisées sur leurs genoux. L'homme sans menton est retourné à sa place. D'un côté de son visage, la chair s'assombrissait. Sa bouche avait gonflé en une masse informe de couleur cerise avec un trou au milieu. De temps en temps, un peu de sang coulait sur sa salopette. Ses yeux gris flottaient encore de visage en visage, plus coupable que jamais, comme s'il cherchait à découvrir à quel point les autres le méprisaient pour l'humiliation qu'il venait de subir. La porte s'ouvrit. D'un petit geste, l'officier indiqua l'homme à la tête de mort. « Chambre 101 !» dit-il. Il y eut un soupir et une agitation aux côtés de Winston. L'homme s'était en fait jeté à genoux sur le sol, les mains jointes. « Camarade officier, » s'est-il écrié, « vous n'avez pas besoin de m'emmener à cet endroit. Ne vous ai-je pas déjà tout dit ? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Il n'y a rien que je ne veuille pas avouer, rien. Dites-moi juste ce que c'est et j'avouerai tout de suite. Écrivez et je signerai, n'importe quoi, pas la chambre 101. Chambre 101, dit l'officier. Le visage de l'homme, déjà très pâle, prit une couleur que Winston n'aurait pas cru possible. C'était sans aucun doute une nuance de vert. Il cria. « Faites-moi n'importe quoi. Vous m'avez affamé pendant des semaines. Finissez-en et laissez-moi mourir. Fusillez-moi, pendez-moi, condamnez-moi à 25 ans. Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous voulez que je donne ? Dites-moi qui c'est et je vous dirai tout ce que vous voulez.
Peu importe qui c'est ou ce que vous lui ferez. J'ai une femme et 3 enfants. Le plus grand d'entre eux n'a pas 6 ans. Vous pouvez les prendre, tous, et leur couper la gorge sous mes yeux. Je resterai là et je regarderai, mais pas la salle 101.
Salle 101, dit l'officier.
L'homme regarda les autres prisonniers avec frénésie, comme s'il pensait qu'il pourrait mettre à sa place une autre victime. Ses yeux s'arrêtèrent sur le visage écrasé de l'homme sans menton. Il tendit un bras maigre. « C'est lui que vous devriez prendre, pas moi » cria-t-il. « Vous n'avez pas entendu ce qu'il disait après qu'ils aient frappé son visage ? Donnez-moi une chance, et je vous raconterai tout. C'est lui qui est contre le parti, pas moi. » Les gardes s'avancèrent. La voix de l'homme s'éleva et cria « Vous ne l'avez pas entendu » a-t-il répété. Le télécran ne marchait pas. « C'est lui que vous voulez. Prenez-le. Pas moi. » Les deux robustes gardes s'étaient arrêtés pour le prendre par les bras, mais il se jeta sur le parquet et s'agrippa à l'un des pieds de fer qui supportait le banc. Il avait poussé un hurlement inconnu, comme un animal. Les gardes se sont emparés de lui pour le libérer, mais il s'accrochait avec une force étonnante. Pendant peut-être 20 secondes, ils le tirèrent de toute leur force. Les prisonniers étaient assis, silencieux, les mains croisées sur leurs genoux, regardant droit devant eux. Les hurlements cessèrent. L'homme économisait son souffle pour s'accrocher. Il y eut alors une sorte de cri. D'un coup de son pied botté, un garde lui avait cassé les doigts d'une main. Ils le traînèrent et le mirent debout. « Chambre 101 !» dit l'officier. L'homme fut conduit dehors, marchant de façon instable, avec la tête tombante, frottant sa main écrasée, toute sa combativité épuisée. Un long moment s'écoula. S'il avait été minuit quand l'homme à la tête de mort fut emmené, c'était le matin. S'il avait été emmené le matin, on était l'après-midi. Winston était seul, et avait été seul pendant des heures. La douleur d'être assis sur le banc étroit était telle que souvent il se levait et se promenait, sans récrimination du télécran. Le morceau de pain se trouvait encore là où l'homme sans menton l'avait laissé tomber. Au début, il fallait un grand effort pour ne pas s'en occuper, mais la faim a fait place à la soif. Sa bouche était collante et avait mauvais goût. Le bourdonnement et la lumière blanche constante ont induit une sorte de malaise, un sentiment de vide dans sa tête. Il se levait parce que la souffrance de ses os n'était plus supportable. Puis, presque tout de suite, il se rassasiait parce qu'il était trop étourdi pour s'assurer de rester debout. Chaque fois que ses sensations physiques étaient un peu sous contrôle, la terreur revenait. Parfois, avec un espoir qui s'évanouissait, il pensait à O'Brien et à la lame de rasoir. On pouvait penser que la lame de rasoir pourrait arriver dissimulée dans sa nourriture, si jamais il était nourri. Plus faiblement, il pensait à Julia. Quelque part, elle souffrait peut-être bien plus que lui. Elle pourrait crier de douleur en ce moment. Il pensait, si je pouvais sauver Julia en doublant ma propre douleur, le ferais-je ? Oui, je le ferai. Mais ce n'était qu'une décision intellectuelle, prise parce qu'il savait qu'il devait la prendre. Il ne la sentait pas. Dans cet endroit, vous ne pouviez rien ressentir, sauf la douleur et la prescience de la douleur. D'ailleurs, était-il possible, lorsqu'on souffrait réellement, de désirer, pour quelque raison que ce fût, que la douleur augmente ? Mais il n'était pas encore possible de répondre à cette question. Les bottes s'approchaient à nouveau. La porte s'ouvrit. O'Brien entra. Winston se mit debout. Le choc de cette vision avait fait fuir toute prudence. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il oublia la présence du télécran. « Ils t'ont eu aussi ?
s'est-il écrié. Ils m'ont eu il y a longtemps, dit O'Brien presque à regret, avec un léger accent d'ironie. Il s'écarta. Derrière lui apparut un garde à large poitrine avec une longue matraque à la main. « Tu le sais, Winston, » a déclaré O'Brien. « Ne te mens pas. Tu le savais, tu l'as toujours su. »« Ouais. » Il le voit maintenant. Il l'a toujours su. Mais il n'avait pas le temps de penser à cela. Il n'avait Dieu que pour la matraque dans la main du garde. Elle pouvait tomber n'importe où. Sur son crâne, sur le coin de l'oreille, sur le bras, sur le coude. Le coude. Il s'affaissa à genoux, presque paralysé, en serrant de l'autre main le coude touché. Tout avait explosé dans une lumière jaune. Inconcevable. Il est inconcevable qu'un seul coup puisse causer une telle douleur. La lumière s'est dégagée, et il put voir les deux autres le regard baissé sur lui. Le garde se moquait de ses contorsions. En tout cas, une question avait trouvé une réponse. Jamais, pour quelque raison que ce fût sur terre, on ne pourrait souhaiter une augmentation de la douleur. On ne peut souhaiter qu'une seule chose, que la douleur cesse. Rien au monde n'est aussi horrible que la douleur physique. Face à la douleur, il n'y a pas de héros. Aucun héros, se répétait-il sans cesse, en se tordant sur le sol, s'agrippant inutilement à son bras gauche estropié.